On entend partout que le nouvel antisémitisme, peut-être même le nouveau leader de l'antisémitisme en France, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et en ce jour de Yom HaShoah, le hasard fait bien ou mal les choses, mais il se trouve que Jean-Luc Mélenchon lui-même a publié sur son compte X et a épinglé, comme on dit, c'est-à-dire a fait en sorte que ça soit toujours visible en priorité sur son compte, une forme d'explication ou de réponse, disons, aux accusations d'antisémitisme qui lui sont portées. Alors nous sommes en ligne avec Michel Viviorca. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant, vous êtes chargé de recherche, enseignant à l'IHESS, vous êtes l'auteur, vous êtes sociologue et auteur de nombreux ouvrages, dont plusieurs sur l'antisémitisme. Donc je vous ai demandé d'être avec nous aujourd'hui pour nous donner votre sentiment après les propos qui ont été publiés par Jean-Luc Mélenchon et que nous allons tout simplement entendre. On va en écouter deux extraits.
D'accord.
Et je vais vous demander votre sentiment.
Nous ne pouvions pas accepter un gramme d'islamophobie dans notre pays, parce que le racisme et la haine religieuse est le programme commun de toutes les droites. Ils s'unifient sur ce terrain. Et qui a inventé ça? Ici, Samuel Huntington, Le choc des civilisations. C'est ce livre qui sert de programme politique à toutes les droites depuis plus de 25 ans, qui ont inventé dans tous les pays un ennemi de l'intérieur. Avant, c'était les communistes. Et avant les communistes, c'était les juifs. Et maintenant, ce sont les musulmans. Avec une équation, musulman égale islamiste, islamiste égale terroriste. Tous les jours, et on se sert de la lutte contre l'antisémitisme pour propager de l'islamophobie. Parce que, je répète souvent ça, je dis, pourquoi à 70 ans, je deviens antisémite? Qu'est-ce qui, dans ma vie, vous permet de croire ça?
Voilà, Michel Viviorca, donc c'est Jean-Luc Mélenchon, on a bien compris, et j'ai envie de dire jusqu'à l'écœurement, mais c'est lui qui s'explique sur cette question et qui veut qu'on le sache, puisqu'il le publie sur X et il l'épingle sur son compte pour que ça reste toujours en priorité. Votre sentiment?
Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est évidemment un texte de combat, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un texte intellectuellement pas sérieux. On ne peut pas mettre sur le dos de Samuel Huntington tout ce dont il est question dans ce document. Donc, et je pense, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que sa lecture de Samuel Huntington est un peu superficielle. Mais enfin, laissons ça de côté. Premièrement, je pense qu'il devrait avoir raison théoriquement s'il n'avait pas tort pratiquement. Il a raison théoriquement, il faut accepter aucun racisme et aucun antisémitisme. Mais on ne peut pas dire que pratiquement il fait du côté de l'universel et de l'idée qu'il faut combattre en même temps l'antisémitisme et ce qu'il nomme l'islamophobie. Car en réalité, lui, son cheval de bataille, c'est l'islamophobie et ses positions, sinon les siennes personnelles, du moins celles de son parti, de son mouvement, ses positions sur l'antisémitisme ne sont quand même jamais très éloignées de ce qu'il dénonce. Donc, prudence. Donc, ma première remarque, c'est pour dire on ne peut pas prôner les valeurs universelles et en même temps être uniquement d'un côté de la lutte antiraciste et non pas des deux côtés, c'est-à-dire de la lutte aussi contre l'antisémitisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui me semble tout à fait important, c'est qu'il dit n'importe quoi, et là, en matière sociologique. Il prône deux choses. Il prône, je vais exprès jargonner un tout petit peu, une sorte d'intersectionnalité. Mettez ensemble des jeunes filles dont il dit qu'elles sont...
Alors ça, je vois le chercheur, ça c'est la deuxième partie. On va l'entendre dans une minute, mais je vois effectivement le sociologue et le chercheur en sociologie. Ça c'est tout de suite après. Moi ce qui me frappe dans le premier passage qu'on vient d'entendre, c'est très rapide, hein, le tout fait 2 minutes 45. Donc on va entendre la minute qui reste dans une seconde. Mais moi ce qui me frappe, si vous voulez, dans cette, c'est qu'il dit... Nous ne pouvions pas tolérer un seul gramme d'islamophobie. Bah, si il veut dire par islamophobie, il y a discussion entre les chercheurs, mais s'il veut dire un seul gramme de haine des Arabes, bah, il a raison. Mais le problème, ou des musulmans, bon, pareil, il a raison. Mais le problème, c'est que le même monsieur bastonne toutes les semaines. Et là, ça s'est un peu calmé. Mais avant, c'était tous les samedis, depuis le 7 octobre, dans des manifestations où il sait très bien avec qui il manifeste. Je ne dis même pas que lui tient des propos qui sont antisémites, je ne dis même pas ça. Mais il sait très bien avec qui il manifeste, c'est très bien ce qui se dit dans ses manifs. Alors quoi ? Alors, contre les Juifs, on accepte un gramme d'antisémitisme, mais contre les Arabes, ou les musulmans, un peu ça comme vous voulez, musulmans d'ailleurs, parce que c'est islamophobie. Et contre les musulmans, pas un gramme. Alors dis-moi, Jean-Luc.
C'est exactement ce que j'ai essayé de dire. Ou bien on dit je suis dans les valeurs universelles de refus de toutes les formes de haine religieuse, raciale, antisémite, etc.
Comme vous et moi.
Voilà. Ou bien on le dit et on le fait. Ou bien on le dit et on ne le fait pas. Donc lui, il commence par le dire. Je ne suis pas antisémite et il ne faut pas accepter la moindre once d'islamophobie. Très bien. Pour, en réalité, être quelqu'un qui dirige une force politique, un important courant politique, au sein duquel, en permanence, montent des propos que j'appellerais antisionistes, qui masquent en réalité un antisémitisme plus ou moins puissant. Et donc, en pratique, il est le contraire de ce qu'il postule au départ. C'est ça le point important.
Allez, on va venir maintenant à ce qui est votre domaine de recherche, l'intersectionnalité. Donc on écoute la deuxième minute de son intervention, on va voir ce qu'il dit.
On dit « Ah, c'est pas le sujet, vous faites ça pour gagner les voix des cités populaires. » Et les cités populaires égalent les musulmans égalent les islamistes égalent les terroristes. Autrement dit, on prend comme argument une forme de lutte contre le racisme, pour arriver à la fin à en propager un autre, c'est-à-dire que tous les musulmans sont suspects. Et il faut comprendre que ce n'est pas une question religieuse, c'est une question politique. Il leur faut diviser le peuple. Et quand ils s'en prennent aux musulmans, c'est parce que les musulmans, jusqu'à présent, ont été ceux qui faisaient toutes les tâches concrètes, pratiques. Alors oui, ils sont tous dans les cités populaires, mais c'est la seule catégorie, la catégorie populaire, des cités populaires, dans lesquelles il y a des catégories sociales ascendantes qui portent une espérance révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que souvent, le papa était à l'école, pas toujours la maman. Mais la fille, elle a pas plus 2 ou plus 3. Et donc, vous avez deux phénomènes qui vont se conjuguer. La conscience populaire d'être humiliée et opprimée par les dominants, plus la conscience féminine particulière de la situation d'exploitation. Je comprends qu'ils aient peur.
Alors,
ils ont raison d'avoir peur, mais pas de l'islam. Ils doivent avoir peur de la volonté de partage et d'égalité du peuple. C'est de ça dont ils ont peur.
Alors, disons que ça part pas mal. Il dit, écoutez, moi, on me dit que je cherche que les voix des Arabes parce que je cherche que les voix populaires. Mais les musulmans, les Arabes sont dans les Noirs, les Africains, et c'est eux qui font le travail que les autres n'ont pas voulu faire pendant des années. Eh bien oui, vous les retrouvez dans un quartier populaire. Donc pas mal. Bon, on dit, bon. Et alors après, ça part totalement en vrille. Les filles vont aller à l'école, alors elles vont devenir révolutionnaires. Les filles vont venir à l'école, alors elles vont remettre tout en... Elles vont tout remettre en cause parce qu'elles vont à l'école. Moi, je veux dire, j'ai une fille, elle n'est pas révolutionnaire. Hein, et elle a fait de belles études à la Sorbonne. Et puis aussi, enfin bon, après, si vous voulez, on fera le « et aussi », la volonté de partage du peuple. Mais qu'est-ce qu'il croit, lui, que le peuple partage plus que les autres ? C'est parmi les pauvres qu'on a envie de se casser la figure le plus souvent. Alors, bon, c'est vous le sociologue, dites-moi ce que vous en pensez.
Oh, bah écoutez, premièrement, il mélange deux catégories qui n'ont quand même pas grand-chose à faire, et ça c'est un discours qu'on peut appeler intersectionnaliste, c'est-à-dire le nouveau sel de la terre, il est à la rencontre de la conscience populaire musulmane, pauvre, arabe, etc., dominée, et de la mobilité ascendante de jeunes filles qui sont bac plus 2, bac plus 4, et qui vont trouver leur place dans la société. Donc ça c'est évidemment un discours qui ne tient pas la route une seconde, et d'ailleurs j'ajouterais, puisqu'il y a quand même un petit côté marxiste, sauf que la nouvelle classe populaire, c'est pas celle de Marx, c'est pas les prolétaires ouvriers, c'est les dominés arabo-musulmans. Sauf que s'il était vraiment marxiste, il se rappellerait que la religion, c'est l'opium du peuple. Mais ça, c'est pas tout à fait son problème. Donc, on le laisse de côté. Donc, un, il tient un discours intersectionnel qui ne tient pas la route une seconde, mais pas une seconde. Qui peut croire que ces jeunes filles de Bac plus 4 veulent faire la révolution ? Qui peut croire même que ces prolétaires, appelons-les comme ça, arabes, justement, veulent faire la révolution ? Donc il tient un discours révolutionnaire à propos de catégories sociales qui n'ont jamais démontré leur volonté ou leur capacité à être révolutionnaires. Et donc, contrairement à ce qu'il raconte au début de cette partie que vous venez de nous faire passer, contrairement à ce qu'il raconte, c'est en plein dans la politique qu'il nous installe et qu'il nous installe, en développant un programme qui est « Votez pour moi, votez pour mes candidats et vous verrez ce que vous verrez, nous avancerons et nous mettrons fin à l'injustice et à toutes sortes de problèmes. » Donc, c'est un discours de campagne tourné vers une figure qui n'existe pas, la rencontre, la figure, la synthèse de la jeune fille en ascension sociale et du dominé, exploité, etc., issu de l'immigration, disons, arabo-musulmane, pour simplifier. Donc, c'est pas sérieux sociologiquement, c'est simplificateur, on le disait tout à l'heure, quand il s'agit de se référer à l'influence de Samuel Huntington, et c'est mensonger en ce qui concerne les valeurs universelles dans lesquelles, en réalité, Jean-Luc Mélenchon fait le tri, abat l'islamophobie, que tout le monde peut partager, mais pas un mot sur l'antisémitisme.
Même là, il ne dit pas, et vous savez très bien, il dit, c'est intéressant, il s'empêchera toujours de dire je condamne. Alors, deux choses, et ce sera quasiment ma dernière question. Deux choses. La première, c'est que pour connaître bien le Proche-Orient, en tant que mon travail, et puis pour connaître les Juifs, je veux dire qu'une jeune femme religieuse, qu'elle soit juive, ou d'ailleurs ils viennent souvent des mêmes coins d'ailleurs, hein, parce que les juifs ils viennent de Tunisie, du Maroc quand on parle de la France, religieuse, pratiquante, elle est conservatrice, elle est même réactionnaire. Elle veut pas de la révolution, elle veut pas les transgenres, elles sont pas pour ça ces filles. Donc lui, il invente. Mais je vous amène vers ma vraie question qui est le drame qui s'est passé en France et qui a provoqué toute cette souffrance pour de nombreux juifs de France, c'est la rencontre, c'est ce qu'a réussi Mélenchon avec ce qu'on vient d'entendre. C'est la rencontre entre l'extrême gauche et l'islam politique ou l'islam actif, appelons ça comme ça, et qui ont créé quelque chose autour de la Palestine et qui a fait des ravages, par exemple à Sciences Po, mais aussi aux États-Unis, à Harvard, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Alors, je pense que oui, à condition de dire que là, il n'est pas du tout dans la question palestinienne, aujourd'hui, dans ce texte, dans ce document qu'on entend. C'est pas ça le thème. Et donc, je pense que la façon dont est utilisée la référence au Hamas, par d'autres, pas par lui aujourd'hui, dans ce document, ça, oui, ça s'inscrit dans ce paysage. Mais là, je trouve qu'il nous donne une image d'un nouvel acteur révolutionnaire. C'est ça. C'est pas soutien au Hamas qu'il nous dit. C'est vous êtes le sel de la terre, vous, les jeunes filles Bac plus 4 et les pauvres arabes et musulmans, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la future révolution et nous sommes votre avant-garde. C'est ça qu'il est en train de leur dire, ce qui me semble délirant. Il gagnera peut-être quelques voix, bien sûr, mais enfin, ce sera sur un malentendu en plus.
Non, car il promet non, la non, non, c'est pas sur un malentendu. Ils sont d'accord les deux, excusez-moi monsieur le professeur, ils sont d'accord les deux. Les électeurs de base et lui, ils sont d'accord tous les deux. Tous ces quartiers qui votent pour, qui sont hyper religieux, qui sont tout ce que vous voulez, et qui votent pour un type qui est marxiste et révolutionnaire, ils votent sur une base ethnique. Le leader des indigènes de la République est une femme, a dit, le parti des Arabes, c'est LFI, ils ne votent que sur une base communautaire, ethnique et religieuse. Ça n'a rien à foutre de son marxisme.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un malentendu total. Comme vous le dites, c'est un électorat qui est plus conservateur qu'on peut le croire. culturellement aussi. Bon, je pense dire que les jeunes filles qui s'en sortent sont peut-être moins conservatrices que ce que vous dites, justement parce qu'elles s'en sortent et qu'elles rentrent dans la grande société, si je peux dire. Mais il me semble que là, il tient un discours interne à la société française, ce qui cimente son discours et donc son électorat, c'est quand même la haine des Juifs, mais elle n'est pas mentionnée. Ça, je pense que c'est ça le ciment le plus fort, parce que le reste me semble fragile. Et quand même, comment veut-il avoir un programme révolutionnaire s'adossant sur une religion? Ça me semble d'inspiration marxiste, si vous voulez, ça me semble totalement contradictoire. Donc moi, je pense que sa position est électoraliste, qu'elle est fondée en partie sur la haine des Juifs, peut-être pas dans le discours explicite, mais dans le fond des choses, et qu'elle est totalement déséquilibrée, mais qu'elle repose sur un pari qui ne peut pas être gagnant. Je ne vois pas, moi, comment les jeunes filles Bac plus 4 peuvent faire alliance avec les prolétaires dont ils parlent. Je ne le vois pas.
Hein. Donc vous voulez dire qu'il est en train de raffermir sa base et qu'il a atteint son... Ça intéresse nos auditeurs, ça. Il a atteint son plafond de verre, ça y est, il n'ira pas plus haut, il va rester à 10-12%, mais il ne peut pas monter plus haut, c'est ça que vous dites?
Alors, moi je pense, alors s'il s'agit d'une analyse là, vraiment politique, je pense qu'en ce moment, avec ce genre de discours, il durcit sa base, donc il la renforce, mais en la durcissant, en la renforçant, il perd la capacité de l'élargir. Voilà ce que je pense. Et je pense même qu'il perd du monde. Je pense qu'il y a pas mal d'électeurs de la France insoumise qui, voyant ce que cache le discours antisioniste ici et là, se disent « Non, je ne peux pas avec ces gens-là ». Donc, je pense que ça s'affaiblit autour et ça se renforce dedans. Voilà, c'est un peu ça l'image que j'aurais, et ça se renforce sur une base, je vais utiliser un mot un peu extrême, mais sur une base sectaire, c'est-à-dire une base qui n'est plus une base sociale, une base populaire, c'est autre chose, c'est un sectarisme idéologique de plus en plus.
Michel Viviorca, je rappelle que vous êtes chercheur, sociologue, enseignant à l'IHESS, et que d'ailleurs, j'en profite pour envoyer les auditeurs à vos nombreux ouvrages, y compris sur la question de l'antisémitisme. Je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Chalon, bonsoir à vous.
Bonsoir.